Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Ce sont des histoires des enfants qui naissent dans un vide juridique, à la faveur d'arrangements entre particuliers qui ne sont pas encadrés par la loi, laquelle ne protège du coup ni les parents ni les enfants. Parfois les parents se connaissent, ce sont des amis, mais souvent ils se rencontrent via des sites de coparentalité. Il y en a deux, surtout Coparents, 140 000 inscrits, et Coparentalis, 50 000 inscrits. Comme la gestation pour autrui, dont l'illégalité ouvre la voie à toutes sortes de dérives. On l'avait raconté ici dans Les Pieds sur Terre avec l'histoire de cette mère porteuse qui avait, entre guillemets, vendu l'enfant qu'elle portait à deux couples successivement. Comme la GPA illégale donc, le refus de reconnaître l'existence de familles différentes, homoparentales, à 3, à 4 et pourquoi pas à 5, d'accorder par exemple l'autorité parentale à plus de deux personnes, est à la fois un déni de réel et un danger pour tous. Car le droit, on le sait, n'est pas seulement là pour interdire ou pour punir, mais le plus souvent pour protéger. Et heureusement, certains juges en ont bien conscience, comme on l'entend tout de suite avec de grandes avancées et deux expériences différentes, deux fois de papa et de maman à la recherche d'une famille et du bonheur, par Timothée de Roglaudre.
Je m'appelle Loïc, j'ai 48 ans, j'habite dans le 10e arrondissement à Paris et je suis scénariste. J'ai hérité d'une vision de la famille qui n'est pas forcément simple parce que moi, mon père est mort quand j'étais assez jeune, j'avais 13 ans. C'est vrai que ça a plutôt chamboulé à mon adolescence les repères familiaux. Après, j'ai grandi dans une famille avec un couple parental hétérosexuel qui fonctionnait plus ou moins bien, qui avait ses hauts et ses bas, je pense, mais j'ai quand même pas eu une vision très positive de la famille mononucléaire. C'est-à-dire que j'avais pas très envie de reproduire ça. Je pense pas que mon homosexualité soit liée à ça, mais je pense en revanche que si je devais faire famille, il fallait que je réinvente un cadre un peu différent, quoi. Quand j'étais jeune, je crois que je voulais être parent. J'avais lu 13 à la douzaine, qui était un livre où il y avait vraiment 12 enfants. Le père était une sorte de chef d'orchestre qui minute tout comme ça. Mais c'est un fantasme d'enfance qui a été assez vite balayé quand, plus tard, j'ai finalement assumé mon homosexualité assez tardivement. J'avais déjà 21 ans. À ce moment-là, mes priorités étaient un peu ailleurs. Plutôt dans le fait de rencontrer des hommes, voilà, dans les rencontres. Et c'est vrai que j'ai mis l'idée d'une famille complètement de côté pendant tout ce temps-là. Alors même qu'avec Johan, on s'est rencontrés, j'étais encore assez jeune, j'avais 24 ans. Mais c'est vrai que toutes les premières années de notre couple n'étaient pas du tout orientées vers l'idée de faire une famille. Johan, mon compagnon, lui, avait probablement cette idée quand même un peu plus ancrée. Mais quand je me suis installé dans le couple, j'ai probablement encore plus que la famille, le couple me faisait peur. De reproduire un couple hétérosexuel fidèle, etc., ça me convenait pas des masses. On est venu à un couple ouvert assez rapidement autour de rencontres d'autres hommes de passage. On a aussi expérimenté, enfin on est aussi retrouvé à être en couple à trois. Puis une autre fois, un couple à quatre. En tout cas, le couple ne devait pas rester dans une configuration fixe et il pouvait sans cesse évoluer. Voilà. On a commencé à réfléchir à avoir des enfants, je dirais vers 2012, 2013, je ne sais plus exactement l'année. C'est d'abord Johan qui y a pensé. Mon frère, lui, avait, qui est également homosexuel et qui vit en couple à trois, avait fait un enfant en 2011 avec une coparente rencontrée sur un site de l'association des parents gays et lesbiens, la PGL. Je pense que l'idée a travaillé un peu Johan et lui a commencé à faire des rencontres via la PGL de coparentes possibles. Et moi, c'est vrai que j'étais à l'époque plutôt non, ça ne me concerne pas. On pourra faire appartements séparés, on pourra faire tout ça. Tu poursuis ton idée si tu veux, mais moi, pas trop. J'avais peur que ça chamboule un peu ma vie trop. Je sortais un peu de l'école, je m'inscrivais dans le travail. J'avais refait une école de cinéma, donc après, j'avais 32, 33 ans et j'étais encore... Pour moi, c'était pas une priorité à ce moment-là. Et puis, bon, voilà, il a fait quelques rencontres qui étaient pas forcément concluantes, mais qui l'aidaient à réfléchir probablement à son projet. Et il s'est trouvé que une amie à nous, j'avais connue 10 ans auparavant, elle était en couple un peu plus récent avec une autre femme. Et elle se posait la question d'avoir un enfant dans son couple. Et voilà, et quand on a vu que ben les deux couples réfléchissaient à la même chose, on a décidé de mettre le projet en commun. Et c'est là que moi, je suis rentré pleinement dans l'idée d'avoir un enfant, non seulement parce que cette femme était une amie, je la connais bien. D'un coup, il y avait quelque chose qui s'ouvrait et qui devenait plus simple parce que on reproduisait pas un couple un peu avec les deux parents. Mais on ouvrait une structure qui était un peu, pour moi, un peu nouvelle, un peu différente. Et j'avais l'impression que c'était plus libre et plus ouvert et un peu plus festif, un peu plus joyeux, en tout cas, dans l'idée de comment on se projette dans la parentalité. On avait pu envisager d'autres manières. Il y avait l'adoption, mais qui, à cette époque-là, était encore pas très simple. Il y avait éventuellement la GPA, mais à titre personnel, ça me semblait pas complètement simple. Je voyais pas trop comment je m'inscrivais là-dedans. Donc la coparentalité me paraissait le plus évident. Ouais. Alors, déjà pour mettre en œuvre le projet, on a parlé. Et on a mis en place une charte. Ça n'a pas une énorme valeur juridique, mais ça permet éventuellement d'attester de la bonne foi de comment on est entré dans le projet. Et puis, ça permet d'aborder les différents points qui seront un peu les valeurs éducatives qu'on va vouloir donner sur l'école, l'école publique, l'école privée, la garde, comment on s'organise, même financièrement. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis, nos deux fils sont nés l'un en 2015 et l'autre en 2018, donc 3 ans pile presque. Le fait d'avoir 4 parents, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu trop à leur expliquer. Je dirais que ça s'est fait assez naturellement pour eux. J'ai pas l'impression qu'ils aient été beaucoup renvoyés à ça, ou en tout cas, eux, à chaque fois, en tout cas quand ils étaient petits, vers 2, 3, 4 ans, c'était quelque chose qu'ils annonçaient très régulièrement. Ils croisaient quelqu'un dans le train, ils commençaient à parler, ils disaient « Ah oui, moi j'ai 2 mamans, j'ai 2 papas ». Donc c'était quelque chose qui était très dit et assez facilement dit pour eux. J'ai pas eu l'impression qu'à l'école, ce soit ils aient subi une quelconque stigmatisation de cette situation. Aussi, probablement parce qu'on est dans une école publique du 10e arrondissement, dans un milieu assez privilégié de ce point de vue-là. Donc, je pense que ça n'a pas été un sujet pour eux. Nous, en tout cas, on a expliqué plutôt vers 4-5 ans, c'est-à-dire quand ils peuvent commencer à discuter vraiment, on a expliqué qu'on est 4 parents de manière totalement égale. On a pensé important de leur dire qui étaient les parents biologiques, qu'il n'y ait pas de confusion dans leur tête, sachant que donc notre premier enfant concerne 2 parents biologiques et que le 2e enfant a les 2 parents biologiques croisés. Donc on est tous les 4 parents biologiques d'un des 2 enfants et parents sociaux de l'autre. Alors du côté des mamans, ils disent maman et le prénom, voilà, pour chacune d'entre elles. Et de notre côté, ils disent soit papa Jos pour Joanne ou papa Lo, ou même une sorte de contraction, Palo ou Pajo. Et très souvent, ils nous appellent juste papa et on est censé comprendre. Et au ton, en général, on comprend qui ils appellent. Ça peut suffire. Et puis, on a une garde alternée, on fait des plannings plutôt au mois. parce que les mamans sont intermittentes et donc travaillent sur des tournages et donc sont appelées à être absentes de manière un peu plus, ou présentes de manière un peu plus irrégulière. Donc on a une garde alternée à 50% du temps. Mais on n'est pas encore sur une semaine, ou sur un truc très strict. On est encore sur 2 jours d'un côté, 3 jours de l'autre. Enfin, il y a des semaines de 2 jours et des semaines de 5 jours, grosso modo. Forcément, il y a des tensions qui arrivent. C'est-à-dire on n'est pas toujours forcément d'accord sur le degré d'autonomie qu'on accorde à l'enfant, sur l'école et les choix scolaires. En tout cas, on a toujours réussi à en parler, à les dépasser. Donc ça n'a jamais été un frein complet, en tout cas. Dans l'école, c'est concernant notre fils aîné, il a des copains et copines qui sont d'horizons assez différents, et notamment issus de familles religieuses, que ce soit catholiques ou musulmanes. Et bizarrement, ça n'a jamais été un sujet, même avec un copain scout, ou alors, bon, c'est peut-être... Moi qui arrivais avec un certain nombre d'a priori ou de préjugés, mais en tout cas, ça n'était pas un problème pour les parents non plus. J'ai jamais, moi, ressenti de regard particulier sur notre configuration. Dans nos cas de famille, l'annonce qu'on allait faire des enfants était plutôt bien reçue. On l'a plutôt annoncé au moment où c'était déjà un peu en route. Mais donc, les questions de l'homosexualité avaient été gérées dans nos différentes familles. Donc, l'arrivée d'un enfant est toujours une bonne nouvelle si le reste ne pose plus de problème. Alors, on a entamé une démarche juridique de manière assez symbolique. On savait que ça ne changerait pas grand-chose au quotidien, et puis parce qu'en vrai, dans notre quotidien, ça a toujours été assez bien accepté, que ce soit à l'école ou dans les démarches médicales qu'il y a pu avoir. On nous a jamais demandé est-ce que vous êtes le parent biologique ou non de l'enfant. En revanche, c'était important pour nous que la société reconnaisse qu'on avait le même statut, quoi. De mettre quelque chose d'égalitaire entre nous dans le fonctionnement. On a attendu d'avoir le deuxième enfant pour pouvoir faire la démarche. Ce qu'on aurait souhaité faire, c'était aussi une égalité patrimoniale, une égalité par rapport à l'héritage. Mais c'était impossible, en tout cas jusqu'à la majorité des enfants. On le fera sans doute à ce moment-là. Donc on a trouvé cette position un peu symbolique, hein, d'essayer de faire reconnaître une famille de 4 parents. C'est une double délégation d'autorité parentale, un peu croisée comme ça, qu'on a fait valider par une juge aux affaires familiales du TGI, tribunal de grande instance de Paris. Concrètement, c'était la première fois, donc un tel jugement reconnaissait l'existence d'une famille de 4 parents en France. Je pense qu'en cas de séparation, ça a une valeur évidemment bien plus forte que la charte que l'on avait déposée nous au tout début devant notaire, parce qu'un juge a validé cette configuration-là. Donc je pense qu'aucun parent ne pourrait être mis de côté ou oublié dans son rapport à ses enfants, et notamment à son enfant social en cas de séparation d'un des couples, oui. C'est une expérience de vie très étonnante et enrichissante, épuisante aussi, mais comme d'avoir des enfants. En tout cas, je suis heureux qu'on ait pu la mener et qu'elle fonctionne, et j'espère qu'elle fonctionnera le plus longtemps possible. Et je suis reconnaissant déjà à mon compagnon et aux coparentes de réussir à faire en sorte que tout ça advienne.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Marc, j'habite en Bretagne, j'ai 43 ans. J'ai toujours voulu être parent, donc je pense que ça a commencé à mes 21 ans. J'ai dû en parler dès le début à mon compagnon, au début de notre relation. D'ailleurs, ce qui a pu même peut-être lui faire peur au début. Maintenant, vu que ça fait plus de 21 ans qu'on est ensemble, c'est que ça ne devait pas être si effrayant que ça. On a parlé dès le début de coparentalité. On devait avoir 24-25 ans. Alors, au début, on avait rencontré des femmes qui souhaitaient être coparents et qui, elles, imaginaient habiter à côté de notre maison. À l'époque, on a pris peur. Donc, on avait mis de côté la coparentalité. On s'est tourné aussi vers l'adoption, mais l'adoption, à l'époque, c'était compliqué. Après, on s'était interrogé sur la GPA, mais ça répondait pas en fait à ce qu'on voulait. On imaginait à l'époque plus avoir une maman. On aurait vraiment aimé avoir un référent féminin pour les questionnements de l'enfant en fait. Hein. L'enfant puisse être capable de parler soit à son papa, soit à sa maman. Et puis pour la construction personnelle, on trouvait ça forcément un petit peu plus simple. Hein. Tandis qu'un enfant qui est issu de GPA ou d'adoption, le côté où il n'y ait personne pour répondre à ses interrogations et tout, c'est quelque chose qui nous avait bloqué. Oui. Donc on est revenu sur la coparentalité, on faisait beaucoup de recherches sur internet, on essayait de voir comment on pourrait avoir des enfants, et c'est vrai qu'en cherchant, on est tombé sur des sites de coparentalité. Donc l'un des sites s'appelle Coparentalis. Alors on cherche des profils qui correspondent aussi à nos attentes, hein, et c'est voir si on a la même vision des choses. Après, il y a aussi le périmètre, parce qu'on voulait pas quelqu'un qui soit très très loin de chez nous pour pouvoir justement être en garde alternée assez rapidement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré une personne. On avait des échanges par mail qui étaient tout ce qu'il y a de plus normal. Donc on se tutoyait tout, et on a fixé un jour de rendez-vous en fait où on s'est retrouvé pour prendre un café. Donc on est arrivé, on s'est fait la bise, on a discuté, comme ça tout semblait fluide, même si il y avait des blancs du fait qu'on ne se connaissait pas. Puis à la fin, ce qui était très bizarre, c'est que quand on s'est dit au revoir, on s'est serré la main, et là on s'est dit ah, ça va peut-être pas le faire. On n'avait aucun point commun sur la finalité, donc c'est vrai que quand on est sur un site de coparentalis, tu connais pas la personne, c'est vraiment le grand flou qui est derrière. Ouais. Si la personne est à l'inverse de moi, ça va être compliqué, parce que je veux instaurer certaines valeurs à mes enfants, et donc je voudrais pas que ces valeurs soient à l'inverse de l'autre côté. Même pour la construction de l'enfant, ça pourrait être dur. Donc ça a été compliqué. Après, pour un couple gay, il n'y a pas de situation idéale. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, la société fait que c'est plus compliqué pour nous. Un jour, on avait une soirée où il y avait différentes personnes qu'on connaissait, et on a parlé de notre expérience à ces personnes-là. J'ai une amie qui est venue me voir en me disant « Mais tu sais, on a toujours voulu avoir des enfants, donc si ça vous dit, on pourrait peut-être essayer de construire ce projet-là ensemble. » On s'est dit « Bah tiens, cette personne-là, on la connaît, donc forcément, ça va être plus simple. » Donc c'était un couple d'hommes qui rencontrait un couple de femmes et qui commençait à construire un projet de coparentalité. Alors, le projet, il a dû commencer en 2016. On était accompagné d'un médecin, c'est une PMA. Ça a été plus compliqué pour l'une des mamans dans le projet au début, parce que la première mère s'était un peu avancée pour la seconde, et elle a pris peur au début, parce qu'elle trouvait que le projet allait trop vite, hein, et elles se sont quittées, puis elles se sont remis par la suite sur la fin de la grossesse, et elle est revenue, elle avait eu le temps de mûrir le projet de son côté, elle aimait sa compagne, donc tout ce qui paraissait difficile pour elle à l'époque a disparu en fait. Hein. Nous, on s'est mariés en 2017 avec mon compagnon, et on a eu nos deux petites filles en 2018. Hein. On avait fait quelques écrits ensemble sur la garde alternée. Dès que les petites sont sorties de la maternité, on a commencé l'alternance. Il y a eu un contrat de signé, mais qui était un contrat en fait qui n'était pas devant avocat. C'était vraiment un petit bout de papier entre nous, où on partageait un petit peu les idées du projet tel qu'on l'avait conçu. La garde alternée, les valeurs, que chacun gardait sur sa semaine l'éducation des filles à sa charge. On n'avait pas tout mis par écrit, mais on avait au moins mis ça par écrit où chacun avait signé en fait ce petit bout de papier, mais qui malheureusement à l'heure actuelle ne vaut plus rien. La coparentalité a commencé à être compliquée parce que déjà entre les mamans, ça un coup ça se séparait, un coup ça revenait ensemble, ça a duré plus de 2 ans comme ça en fait. Il y en avait une qui voulait continuer un petit peu sa vie d'avant tout en ayant des enfants et l'autre qui était maintenant maman et donc elle pensait à 100% pour les filles et ne voyait pas les à côté en fait. C'était compliqué entre elles, donc forcément des fois ça pouvait déteindre aussi sur notre propre couple vu qu'on était là pour panser des plaies. Et après, ça s'est dégénéré vraiment à l'après-Covid, hein. C'est-à-dire qu'en 2020, après une énième séparation, on a reçu des menaces pendant qu'on était en vacances. La maman qui s'était disputée avec sa compagne nous a assommé de rentrer. Si on rentrait pas, elle allait déposer plainte pour enlèvement d'enfant. Menace où elle s'excusera 48 heures après en avoir discuté avec une amie à nous qui l'aura raisonné un minimum. Mais ça a été un peu la douche froide, on a été obligé de se renseigner auprès de mon assurance pour avoir un avocat conseil hein, qui nous a conseillé d'aller déposer une main courante pour se protéger. Après, ils nous ont rassurés en nous disant que, vu que ça n'avait pas été établi, la garde, on risquait pas grand-chose en fait pour le moment. Par contre, ils nous ont conseillé de faire établir la garde devant la justice. Ouais. Par la suite, elle a coupé court avec sa compagne. À partir de ce moment-là, la compagne n'existait plus. Par exemple, le baptême, elle a exigé que sa compagne ne soit plus là. C'est juste une amie maintenant. Du coup, même si de notre côté, elle continue à avoir les petites avec nous. Entre-temps, nous, on a saisi un médiateur dans le but d'établir les règles et comment on voyait les choses. Et elle, après, a saisi la justice pour établir ses règles à elle aussi. Et elle remettra après en question la présence de mon compagnon. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle a essayé de l'évincer en fait du projet. Après, elle ne peut pas interférer sur notre semaine. Et de toute façon, les filles avaient pris le pli de dire « Papa Marc et Papa Fabien ». Donc, elles n'ont pas changé et je pense qu'elles n'ont pas envie de changer. Il n'y a pas eu d'impact sur notre relation avec nos filles par contre. Ouais. Mais c'est une période qui, depuis 2020, est compliquée jusqu'à maintenant. Elle a totalement changé, en fait. Elle ne respecte pas les engagements qu'elle avait eus à la base. L'école, à la base, devait être à mi-chemin. Et au final, l'école n'est pas à mi-chemin. Elle se retrouve à côté de chez elle. Les horaires d'alternance qui n'étaient plus respectés. On avait établi qu'il y aurait une délégation d'autorité parentale. Et en fait, 2-3 mois après, ça n'existait plus. Elle ne voulait plus en entendre parler, même si ça avait été acté. Mon conjoint, juridiquement, il n'est rien. Et la délégation d'autorité parentale, en fait, ça permet au papa qui n'est pas le papa biologique de pouvoir emmener les petites à des rendez-vous médicaux. S'il y a un problème avec une des petites et que les parents biologiques ne sont pas disponibles, de pouvoir prendre des décisions en notre nom. Tout ce qui va être scolaire, au final, de pouvoir être là à des réunions, de pouvoir accompagner. Enfin, voilà, on a eu le cas de figure où, en fait... qui s'était présenté en tant que délégué des parents et la maman est allée à l'école et a demandé qu'il soit écarté. Voilà. Et là, on a en fait eu une demande de pension alimentaire contrairement à ce qu'on avait pu indiquer au tout début du projet, comme quoi chacun gardait en fait ses charges. Et à l'époque, c'est sûr qu'elle n'était pas toute seule, donc ses charges étaient partagées. Maintenant, elle est toute seule et elle nous demande de subvenir à ses besoins. C'est compliqué parce que du coup, c'est un petit budget en plus pour nous et ça remet en question un petit peu la coparentalité telle qu'elle avait été faite. Et puis moi, ça me questionne en fait sur la personne que j'ai face à moi. J'ai eu l'impression d'être berné, c'est-à-dire que on était tous d'accord de comment ça devait se dérouler. Maintenant, on verra ce que dira la justice derrière, mais... Depuis 2020, c'est un peu la douche froide. Ouais. Alors que entre 2018-2020, tout roulait, tout allait bien, parce que on était en phase. Hein, et ça s'est vraiment envenimé du jour au lendemain et sans raison. On a essayé d'avoir des discussions. Enfin, il y a aucune discussion possible. C'est comme la demande de pension alimentaire. Il y a jamais eu une demande de visu. On a reçu un jour un courrier comme quoi j'étais convoqué devant la justice. On me demandait une subvention pour subvenir à mes filles derrière. On n'a jamais visualisé le négatif à l'époque. On ne s'est pas dit, tiens, il faut qu'on aille devant la justice pour que ça soit établi. On était des personnes adultes et ces problèmes-là, ils étaient très loin, en fait. Ouais, on était dans le monde des bisounours. Je pense que la coparentalité, donc il faut l'établir entre avocats, il faut pallier à tout ce qui est de l'avenir des enfants, il faut qu'il y ait une réglementation en fait. Sinon, effectivement, ça peut partir dans tous les sens et c'est pas une décision à prendre à la légère parce que ça peut avoir un impact dans la vie de tous les jours. Ouais.
Roupa velha no meu corpo a gelar e na hora de a despir e na hora de a despir não a vou saber tirar e os casacos que eu não uso deixo-os para como quem não vai pagar e as afrontas que eu não calço, as conversas que não fazem feliz, se os preconceitos aumentam, se os aumentam eu afronto quem lhes dá força e os diz. Sem tudo isto, eu não tinha de os limpar. E as calças que eu trago nas pernas cobrem tantas histórias que eu não quis, que eu não quis, mas habitam em mim hoje tantas coisas no meu corpo.
C'était De papa, de maman, un reportage de Timothée Doroglaudre réalisé par Eric Lancien. Merci à Joanne et Loïc, à Maître Caroline Mécari, à Marc et Fabien et à l'Association des parents gays et lesbiens. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.